Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, nous venons de faire ensemble 6 émissions faisant un état des lieux sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Lors de la précédente émission, vous avez répondu à la question des pratiques discriminantes pouvant exister dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je vous propose, toujours dans le monde professionnel, d'aborder le sujet des bonnes pratiques d'égalité professionnelle, tout particulièrement dans la fonction publique territoriale. Vous êtes prête ?
Prête.
Nadine, vous parlez de bonnes pratiques des collectivités en matière d'égalité professionnelle. Mais a-t-on vraiment besoin de bonnes pratiques ? Est-ce que la fonction publique n'est pas égalitaire par le statut ?
Effectivement, c'est ce qu'on pourrait croire a priori, mais il y a différents rapports consacrés à l'égalité professionnelle dans la fonction publique et qui montrent le contraire, à savoir que la fonction publique reste inégalitaire même si elle fait des efforts certains en faveur de l'égalité. Et on a besoin d'agir pour que les collectivités territoriales deviennent exemplaires dans le domaine. Et de ce point de vue, les bonnes pratiques, c'est un vrai levier de changement parce que ça montre très concrètement comment on peut agir. Ça peut nourrir la créativité des collectivités dans leur démarche, ça peut les stimuler, leur donner des idées concrètes, accessibles et dont on a vu qu'elles fonctionnent. Mais avant de parler de bonnes pratiques, je pense que le premier constat qui s'impose, c'est qu'il y a des lois et que nous sommes bien outillés dans le domaine du droit. Et la base pour une collectivité territoriale, c'est déjà de respecter la loi.
Justement, que dit la loi sur l'égalité professionnelle ?
Alors, la loi française est plutôt riche dans le domaine. Il y a différents arsenaux juridiques qui se croisent et se combinent. D'abord, les lois qui permettent de lutter contre les discriminations. C'est un premier pan. Ensuite, diverses lois en faveur de l'égalité salariale, ce qu'on appelle l'égalité de traitement, et on y reviendra d'ailleurs dans une prochaine émission, et puis des lois qui favorisent l'égalité professionnelle en général. Alors je ne vais pas citer toutes les lois, il y en a vraiment beaucoup, mais j'en rappelle quelques-unes. La loi Le Port de 1983 sur la lutte contre les discriminations, la loi Sauvadet de 2012, qui impose un rapport de situation comparée et des objectifs de mixité dans les emplois d'encadrement supérieur et dans la composition des jurys, donc loi Sauvadet 2012, la loi El Khomri de 2014, qui va dans le même sens, surtout concernant les collectivités territoriales, et la dernière loi du 6 août 2019, dont on verra un petit peu tout à l'heure le détail des applications.
Nadine, au regard de toutes ces lois existantes que vous venez de citer, comment est-ce qu'une collectivité territoriale peut se lancer dans une démarche d'égalité professionnelle ?
La base de la démarche, c'est déjà de produire des données fiables. Parce que le premier obstacle à l'action, c'est l'ignorance, parfois le déni des inégalités, avec la croyance que le statut protégerait des inégalités. Or, ce n'est justement pas le cas. Et donc, pour lutter contre cette idée reçue, il faut faire un état des lieux, un diagnostic qui chiffre les inégalités. Parce que quand on les quantifie, on les objective, on les rend visibles et ça permet de légitimer la démarche. Alors, pour procéder à un diagnostic, on peut procéder de différentes manières. On peut réunir en interne des groupes de travail avec les agentes et les agents. On peut exploiter des outils de diagnostic disponibles. Il y a par exemple un questionnaire qui s'appelle le DOVAL, document de valorisation des actions locales pour l'égalité femmes-hommes. On peut bien sûr recourir à un cabinet spécialisé. Et si on parle de bonnes pratiques, je peux donner l'exemple de la communauté urbaine de Bordeaux qui a élaboré de manière participative un diagnostic interne qui était piloté par une consultante interne en collaboration avec des universitaires. Ils ont diffusé un questionnaire auprès des personnels. Ça leur a permis de produire des statistiques. Et à partir de là, des groupes d'échange ont été constitués. Donc c'était une démarche qui était à la fois quantitative avec les statistiques, qualitative, et c'est peu coûteux, c'est très mobilisateur et ça permet d'avancer sur le sujet.
Et ensuite ?
Ensuite, il n'y a pas de recette miracle. Chaque collectivité a ses particularités, son histoire, sa culture, sa réalité administrative et politique. Mais bien sûr, l'étape du diagnostic permet d'orienter la démarche et d'amener à se poser les bonnes questions. Quel est le réel de la collectivité ? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses points faibles, mais aussi ses points forts? Qui peut s'impliquer dans la démarche? Quelles actrices, quels acteurs peut-on mobiliser? Quelle méthodologie? Voilà, ça pose déjà un certain nombre de questions. Et je pense que l'important, c'est de partager les constats, de co-construire déjà une démarche collective avec des objectifs qui soient à la fois réalistes et tenables. Mieux vaut peu d'objectifs que s'éparpiller dans des objectifs intenables. Et puis, produire, diffuser une culture de l'égalité professionnelle que tous les personnels puissent s'approprier et appliquer dans leur service.
En vous écoutant, on voit bien l'intérêt de structurer la démarche au niveau de la collectivité. Plus concrètement maintenant, comment est-ce qu'une collectivité peut recruter sans discriminer les femmes ?
Alors ça, c'est effectivement le premier point, c'est de garantir l'égalité à l'embauche, la première priorité. Alors, le respect des obligations légales, c'est un premier garde-fou, puisque la loi impose désormais, depuis un certain temps, un pourcentage minimum du sexe sous-représenté dans les jurys, dans les comités de sélection, dans les emplois d'encadrement supérieur, souvent occupés majoritairement par les hommes. Donc respecter là aussi la loi permet déjà de garantir un minimum d'embauche ou de sélection non discriminante. La loi interdit bien sûr toute discrimination à l'embauche, alors à raison du sexe, de la situation de famille, de l'état de grossesse, et on peut accompagner ce dispositif légal en formant les responsables à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations. On peut aussi mettre à la disposition des jurys et des responsables de recrutement un guide qui comporte des exemples de questions à proscrire en entretien pour éviter de discriminer. Parce qu'on est rarement volontaire quand on discrimine, hein. C'est plutôt que on ne mesure pas les conséquences que peuvent avoir certaines questions. Et donc tout outil d'aide au recrutement, à la promotion, à la mobilité est bienvenu. Et si on le réalise en interne, ça fortifie la démarche, ça permet vraiment de s'approprier l'outil. Un autre aspect qui me paraît important pour les responsables d'encadrement, c'est la rédaction des fiches de poste. D'abord, s'assurer qu'elles respectent la loi, parce qu'il arrive encore qu'on trouve des annonces qui sont maladroites et parfois même illégales. Et c'est important de veiller à la formulation de l'intitulé, au descriptif de poste et d'éliminer tous les stéréotypes qui pourraient apparaître dans la rédaction. Ça veut dire d'analyser les fiches de poste, de supprimer des dispositions qui pourraient être éventuellement discriminantes, et ça permet d'objectiver les compétences requises. Par exemple, la mention floue qu'on trouve souvent, grande disponibilité exigée, voilà, c'est une mention qui ne veut pas dire grand-chose. Par contre, clarifier quelles sont les attentes précises du poste dans le domaine, ça va servir à tout le monde. Et de manière élargie, plus on objective les compétences professionnelles, plus on clarifie les procédures de recrutement et plus on gagne en transparence, en égalité, en diversité. Et je me souviens d'une structure associative, pour le coup, qui avait une procédure de recrutement qui était plutôt atypique, à savoir que ils avaient une liste de questions qu'ils avaient prédéterminées à l'avance avec des critères de notation et ils posaient la même question à toutes les candidates, enfin les mêmes questions, à toutes les candidates et tous les candidats. Ensuite, ils notaient les réponses, et ils mettaient en commun et ils recrutaient la personne qui avait obtenu la meilleure note. Alors c'est une procédure qui est atypique, mais ça fonctionnait bien parce que ça permettait d'éviter des critères subjectifs, par exemple l'empathie, ou le fait qu'on ait spontanément tendance à recruter quelqu'un qui au fond a le même parcours que vous et le même profil que vous. Voilà, donc ça c'était une procédure un petit peu atypique, mais j'avais constaté que elle fonctionnait bien et qu'elle permettait d'éviter tous les biais subjectifs dont on peut ne pas avoir conscience. Et puis, recruter sans discriminer, c'est aussi faire attention à recevoir en entretien des candidats des deux sexes pour tous les postes, en respectant à peu près la proportion des CV reçus. Et puis, il ne faut pas hésiter à pratiquer l'action positive en faveur du sexe qui est sous-représenté quand les filières sont peu mixtes, évidemment en respectant la loi, c'est-à-dire à compétences égales ou comparables.
On sait que l'une des grandes inégalités professionnelles réside dans la faible mixité de l'encadrement supérieur. Les femmes cadres représentent 60% du vivier, mais seulement 30% des postes de direction générale des services, et seulement 5% dans les grandes collectivités. Un véritable barrage, donc ?
Ah oui, ça c'est un vrai problème, parce que ça a des répercussions dans le déroulement de carrière, les salaires, les retraites des femmes, qui sont très pénalisées de ce côté-là. Et les collectivités ont donc besoin d'être volontaristes, à la fois pour accompagner et pour susciter des candidatures féminines sur les postes à responsabilité. Parce qu'on entend parfois dire « je recruterais bien des femmes, mais on n'en trouve pas ». Mais effectivement, comme ce n'est pas une tendance spontanée des femmes de se positionner sur ce type de poste, si on n'aide pas à susciter et ensuite à accompagner les candidatures, on risque de ne pas en avoir. Alors, comment faire? Par exemple, on peut objectiver les processus de recrutement en montant des comités de gestion de carrière, certaines collectivités territoriales le font, qui veilleront à respecter la proportion de femmes et d'hommes reçus en entretien, comme je le disais tout à l'heure, ou qui prêteront une attention particulière aux carrières féminines dans les situations de promotion. On peut aussi améliorer, si nécessaire, les circuits d'information internes sur les postes ouverts à la promotion, éviter justement tout l'effet un petit peu de réseau, de couloir, d'affinité, en clarifiant bien les procédures d'information. Et puis, comme je le disais, encourager les candidatures féminines. Parce qu'on sait que les femmes ont tendance à s'auto-censurer pour candidater à ce type de poste. Alors, d'abord, elles pensent qu'elles n'ont pas les compétences requises, qu'elles ne seront pas capables. Elles peuvent aussi penser qu'elles ne pourront pas articuler la vie professionnelle et la vie personnelle. Et des tas de raisons les amènent à un phénomène d'autocensure. Et on peut travailler sur cette autocensure avec de la formation, avec du coaching, avec du développement de compétences. Et c'est ce qu'a fait le Conseil régional du Centre, qui propose aux femmes des formations à la prise de parole en public, à la conduite de projet et au management pour lutter contre ce phénomène d'autocensure. Un autre conseil départemental, celui-là, celui des Côtes d'Armor, a repensé ses critères de recrutement pour mettre l'accent sur les aptitudes présentes et pas seulement sur les expériences passées. Parce qu'on sait que le critère de l'expérience est souvent plus favorable aux hommes qu'aux femmes, parce que leurs déroulements de carrière sont plus rapides et plus élevés. Voilà. Et puis, certaines collectivités constituent des réseaux féminins. C'est ce qui se passe dans la communauté urbaine de Strasbourg, qui a mis en place un groupe de femmes, chefs de service et directrices adjointes, qui est chargée d'animer le débat sur l'égalité professionnelle, qui s'occupe aussi de lutter contre le plafond de verre et de bâtir un plan d'action pour faire avancer l'égalité femmes-hommes en interne.
Au-delà de l'embauche, comment, d'après vous, la collectivité peut-elle faire progresser de manière égalitaire ses agentes et ses agents?
Alors, il y a bien sûr de nombreux leviers d'action, je vais continuer à en citer, mais là, je vais peut-être m'attacher à un point qui me paraît vraiment important, ce sont les effets bloquants des obligations familiales, de la vie de famille, sur la carrière, ce qu'on appelle autrement la question de l'articulation entre le temps de travail et le temps familial et personnel. Ça, c'est quelque chose de vraiment acté, chiffré, que le travail domestique reste réparti de manière inégale entre les femmes et les hommes, malgré les progrès indéniables de ces dernières années. Mais la double journée des femmes continue de les pénaliser dans leur carrière et continue de creuser les inégalités. Donc un premier aspect, c'est de déconnecter l'avancement et la présence quantitative des agents au travail, ce qu'on appelle la culture du présentéisme, qui a une particularité très française. Dans d'autres pays, ça se passe complètement différemment. Pour ne pas pénaliser les femmes en congé maternité, en congé parental et à temps partiel quand elles ont des enfants en bas âge. Ça, c'est un premier aspect. Et pour ça, la collectivité doit sensibiliser les personnels d'encadrement sur le sujet, faire entrer, développer en fait une culture commune de neutralisation des absences liées à la parentalité. D'autre part, très concrètement, elle doit aussi garantir le maintien du régime indemnitaire pendant les congés maternité et parental. Et c'est d'ailleurs ce qu'impose la loi du 6 août 2019 pour éviter le creusement des inégalités salariales. Et donc veiller aussi au déroulement de carrière équitable des agents, en général les femmes, mais parfois aussi les hommes, qui assument des obligations familiales contraignantes. À propos justement de ces obligations, la maternité représente un moment charnière dans la carrière et surtout la reprise de poste. Alors après un congé maternité et en particulier après un congé parental, sachant qu'il est pris à 95% pour les femmes. Certaines collectivités proposent aux agentes qui reviennent de congé maternité un entretien, un bilan de compétences avec le responsable hiérarchique ou avec la RH, ou peuvent proposer un planning de formation pour la reprise de poste après un congé parental et plus largement après toute longue absence. Ça permet d'accompagner, de faciliter la reprise d'activité. Voilà. Et là, je pense que la RH a vraiment un rôle à jouer, ou ces comités de gestion de carrière dont on parlait, pour vraiment prêter une attention particulière au déroulement de carrière des agentes à temps partiel. Parce que une femme sur trois, ce qui est quand même un chiffre énorme, est à temps partiel entre 30 et 50 ans, ce qui représente en gros le temps de l'éducation des enfants. Donc une femme sur trois contre un homme sur 20 seulement. Évidemment, qui dit temps partiel, dit déroulement de carrière souvent freiné et creusement des inégalités salariales.
À vous entendre, le travail domestique aujourd'hui représenterait un frein à la carrière des femmes ?
De manière générale, c'est toute l'articulation entre le temps professionnel et le temps personnel qui demeure difficile à gérer dans le monde du travail. Et donc les collectivités doivent vraiment s'emparer de cette problématique et l'intégrer à tous les stades, à la fois de leur réflexion et de leur pratique, au moment du recrutement, des promotions, des formations, des conditions de travail. Alors certaines collectivités montent un bureau des temps, ou bien une commission, ou un observatoire de la parentalité, et ça débouche souvent, enfin ou ça peut déboucher sur une charte des temps. Et ça favorise l'accès des femmes à des filières, ou des métiers ou des postes qui pourraient leur paraître dissuasifs au regard de leurs contraintes personnelles. Par exemple, la question des horaires de travail, la question des horaires de réunion, qui sont parfois discriminants pour les mères de jeunes enfants. Et du coup, ce type de commission va travailler à ce que la parentalité ne soit plus un obstacle structurant à la carrière ou à la rémunération. Et ça implique bien sûr de sortir ce que j'appelais tout à l'heure la culture du présentéisme, qui est vraiment franco-française. Dans d'autres pays, on considère que rester au bureau après 17 heures, c'est plutôt un signe d'inefficacité ou de mauvaise organisation. Voilà. Donc on peut tout à fait déconnecter le temps de présence sur le lieu de travail, les primes et l'avancement professionnel. Et puis ça implique aussi, cette question de l'articulation des temps de travail et des temps personnels, d'inciter les pères à prendre leur congé, alors paternité, mais aussi parental, et s'investir davantage, s'ils le souhaitent, dans la vie familiale, sans être pénalisé au travail.
Nadine, d'après vous, que peut-on faire d'autre pour mieux articuler temps de vie et temps de travail ?
Alors l'idée, c'est de prendre en compte aussi cette question de l'articulation dans l'aménagement de l'organisation et du temps de travail. Par exemple, on imagine toujours que les hauts postes sont forcément associés à une quotité de travail très importante, mais on peut envisager de concilier les hauts postes et le temps partiel en créant des binômes de direction mixte. Et certains grands groupes mondiaux l'ont fait. Voilà, c'est là aussi atypique, c'est peu développé, mais ça fonctionne. On peut réfléchir pour assouplir le temps de travail, pour l'aménager de manière plus personnalisée en sortant des horaires stricts de travail. Et repenser le fonctionnement global du service pour le personnaliser davantage. Une autre piste efficace, c'est d'optimiser les déplacements domicile-travail. Alors évidemment, le télétravail peut fonctionner s'il est bien cadré, parce que il permet de réduire les contraintes quotidiennes, de dégager du temps qui n'est plus perdu dans les transports. Alors c'est plus efficace, c'est plus économique du point de vue de l'argent, et évidemment c'est aussi plus écologique.
Je vous coupe là, vous affirmez c'est plus, ça sera plus efficace.
Alors, dans quel sens ça sera ?
Mais c'est un souhait quand on dit c'est plus, c'est une affirmation, mais ça dépend de comment les gens gèrent le télétravail, le font.
Alors, ce qui est important à mon avis, c'est de clarifier le cadre, c'est-à-dire d'abord de sortir d'une suspicion. On a tendance, parfois, pas toujours, à considérer que le télétravail, c'est le prétexte des femmes pour arriver à mieux articuler le travail domestique. Par exemple, quand on dit « Ah ben, les femmes demandent le télétravail le mercredi comme par hasard ». Voilà. Donc, je pense que là, on peut tout à fait clarifier le cadre, dans la mesure où certaines collectivités élaborent là aussi une charte, mais d'autres collectivités partent du principe de confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le travail est fait, elle se focalise pas sur le temps ou sur les horaires ou sur le jour de télétravail qui a été demandé.
Non, mais c'est pour ça que je voulais qu'on distingue entre faire une affirmation, c'est la solution. Il y a quand même une dimension humaine et de mise en œuvre qui est toujours où il peut y avoir des impondérables ou des gens qui suivent pas les règles.
Oui, bien entendu, voilà. Mais comme pour tout système, ça n'invalide pas, en fait, et ça ne décrédibilise pas le système.
Bien sûr.
Et évidemment, ça peut arriver. Et si je vais dans ce sens, il y a aussi autre chose, c'est que le télétravail à mon avis, peut présenter aussi une limite, qui est que beaucoup de choses se font de manière, enfin, dans l'informel, dans le fait de croiser les collègues, de pouvoir échanger, d'aller d'un bureau à l'autre, etc. Et donc, le télétravail, je pense que c'est vraiment un gain, ça peut être un gain d'efficacité, de productivité, de pas s'épuiser, de pas perdre de temps dans les transports, de pouvoir avoir un temps pour soi ou familial, parce qu'on n'a pas perdu ce temps bêtement dans les déplacements. Mais attention, ça doit pas conduire à de l'isolement non plus. Donc, à mon avis, il faut aussi un usage modéré du télétravail. Mais voilà, ce que j'observe pour l'instant, dans mes retours d'expérience quand je suis formatrice auprès des collectivités territoriales, c'est que ça fonctionne quand même plutôt bien à partir du moment où on l'a clarifié et bien cadré, quand même que c'est un gain pour les salariés qui y recourent, et que voilà, un bon usage du télétravail peut être un outil pour l'égalité professionnelle, mais en soi, ce n'est pas une garantie. Ça dépend comment on va effectivement l'exploiter. Alors, si je reviens, et puis alors on disait aussi, ce n'est pas la solution, c'est une piste parmi d'autres. Il y a d'autres pistes. Je me souviens d'une collectivité qui, à propos des déplacements domicile-travail, avait permis en fait aux agents de travailler dans la structure ou le bureau le plus près de chez eux, et pas forcément toujours dans leur service. Voilà. Donc, il y avait une mutualisation des locaux à l'échelle du territoire, de bureaux partagés, et ça pouvait permettre, en cas de nécessité, bien sûr, de se trouver sur place pour une réunion dans les locaux de son service, mais aussi, d'autres jours, de travailler au plus près de chez soi. Ça, c'était un gain intéressant.
C'est une organisation satellite.
Oui, exactement. Et ça fonctionne très bien, Tout le monde y gagne. Ça permet de mutualiser des bureaux, de récupérer de l'espace pour d'autres activités. Et ça permet aussi, bien sûr, de gagner du temps. De manière générale, tout ce qui permet d'articuler temps de travail et temps de vie est pertinent, et particulièrement d'anticiper, de gérer les absences liées à la parentalité en réorganisant les charges de travail, alors soit pour éviter un surcroît de travail à la jante quand elle reprend son poste, soit au contraire pour éviter, ça se voit parfois aussi, une mise à l'écart de la jante quand elle rentre de congé. Tout ce qui facilite la garde d'enfants est également précieux, et plus largement, tout ce qui permet d'alléger ces contraintes domestiques quotidiennes. Certaines collectivités, comme Suresnes par exemple, mettent en place des services de conciergerie, des permanences, des guichets d'information, et ça facilite la vie quotidienne des agentes et des agents, ce qui veut dire un gain de temps et un gain d'énergie précieux. Le principe à retenir, finalement, c'est de toujours penser en amont l'organisation et les conditions de travail pour favoriser l'articulation des temps. Tout ce qui va dans ce sens va contribuer à améliorer la qualité de vie au travail, ce qui n'est pas négligeable, et donc améliorer aussi l'efficacité de l'action publique.
Revenons à la mixité des filières. Il est constaté la faible mixité des filières et que ça semble poser un problème. Comment pourrait-on les rééquilibrer ?
Alors, c'est tout à fait vrai, dans la fonction publique, la plupart des filières sont très sexuées, soit qu'elles soient masculinisées, soit qu'elles soient féminisées à 80-90%, et ça génère des inégalités professionnelles dans les débouchés, dans les progressions de carrière ou les salaires. Donc effectivement, l'idée, c'est de travailler à la féminisation et la masculinisation de quelques métiers cibles particulièrement peu mixtes, en encourageant les candidatures, et en accompagnant les prises de poste. Alors, comment peut-on faire ? À l'externe déjà, la collectivité peut promouvoir la mixité des métiers sur le territoire, alors qu'elle cible les élèves des collèges ou des lycées, qu'elle cible les intermédiaires des emplois, en tout cas, voilà, qu'elle diffuse vraiment une culture de la mixité professionnelle. En interne, la collectivité peut, à partir d'un diagnostic, bien sûr, se fixer des objectifs chiffrés de mixité, en disant, par exemple, on va essayer d'atteindre un ratio de 20-80 minimum dans chaque service. C'est ce qu'a fait justement la ville de Suresnes, en disant, on va commencer par 20-80 et on va déjà voir ce que ça donne. Et ça implique d'agir à plusieurs niveaux. D'abord, de déconstruire les stéréotypes qui sont associés aux métiers traditionnellement masculins ou féminins. De bien informer aussi les personnels, parce que souvent ils connaissent mal, bien sûr, les métiers ou les filières de l'autre sexe. Et j'ai souvent rencontré des collectivités qui organisaient des vies ma vie, qui donnait une idée très concrète aux agentes et aux agents de métiers auxquels ils ou elles ne penseraient pas forcément. Et ça leur permettait justement de déconstruire non seulement les stéréotypes associés au métier, mais aussi les conditions de travail effectives. Voilà, parce qu'on se fait parfois des idées erronées sur ce que peut être tel ou tel travail. Donc ce n'est pas qu'une question de stéréotypes, c'est aussi le réel du travail. Et du coup, un travail sur les compétences est aussi nécessaire. Je parlais tout à l'heure du fait d'objectiver, de comparer les compétences requises par différents métiers, et ça, ça permet de promouvoir des passerelles possibles. C'est ce qu'a fait le Conseil régional de Picardie, qui a réalisé une cartographie sexuée des métiers et qui l'a mise en lien avec un référentiel métier qui objective les compétences requises. Et du coup, ça a mis en évidence les points communs entre différents métiers et ça a favorisé la transférabilité des compétences entre des métiers sexués. Voilà, on s'est rendu compte qu'après tout, telle compétence demandée par tel métier pouvait tout à fait être transférable à tel autre métier. Et à ce moment-là, c'est plus facile de favoriser l'acquisition ou la valorisation des compétences qui manquent chez les candidats. Par exemple, le Conseil régional de Bretagne a élaboré un dispositif qui permet à des agentes de lycée de service général, ça c'est un milieu ultra féminisé, de partir pendant 10 mois en formation longue et professionnalisante pour apprendre un autre métier. Les demandes de stage étaient recensées via l'intranet, qui planifiait aussi des sessions de formation, et plusieurs centaines, hein, je dis bien de sessions, ont déjà eu lieu. Ce dispositif a permis à des agentes de développer des compétences dans la plomberie, dans l'électricité par exemple, et donc de faire entrer des femmes dans des métiers très masculins. Plus largement, ça a permis au personnel de monter en compétences et donc de progresser dans leur carrière. Une autre piste qui va un petit peu dans le même esprit, hein, non seulement monter en compétences mais aussi être accompagné, c'est d'imaginer des dispositifs de parrainage, de marrainage pour encourager les candidatures de sexe opposé et les accompagner dans la prise de poste. Ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur les réseaux féminins.
Nadine, articulation des temps, mixité des métiers, égalité salariale, égalité professionnelle, le chantier est vaste.
Oui, il est plutôt vaste, c'est vrai, mais c'est l'intérêt des collectivités territoriales de favoriser l'égalité professionnelle. Alors, bien sûr, c'est une obligation légale, et il faut y répondre, mais c'est aussi un énorme gain à l'interne. Un gain en termes d'égalité, mais aussi un gain de crédibilité, de légitimité. On peut pas, une collectivité territoriale ne peut pas œuvrer à l'égalité sur son territoire, à l'externe, et laisser de côté l'égalité professionnelle à l'interne. Et voilà, il y a une question de cohérence et de crédibilité. Et puis le gain, c'est aussi celui de l'efficacité. Bah, évidemment, une collectivité qui est plus juste, qui est plus ouverte, qui est plus mixte, est plus attrayante, est plus efficace, et plus séduisante aussi, je dirais, en termes d'image. Et dernier aspect important, l'égalité professionnelle profite toujours aux deux sexes, j'y insiste. Ouvrir les métiers à toutes et tous, adapter les postes, réduire la pénibilité, objectiver les compétences, diversifier les candidatures, accompagner les personnels dans leur évolution de carrière, faire monter en compétences. Ben ça, c'est bon pour les hommes comme pour les femmes, et à mon avis, c'est vraiment un facteur essentiel d'équilibre, de développement et d'attractivité de la collectivité.
Nadine Jasmin, merci infiniment pour cet éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère qu'à l'écoute de l'intervention de Madame Jasmin, vous aurez bien noté ces bonnes pratiques d'égalité professionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour un 8e épisode sur le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Au revoir.
Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.